À la une ce soir.
Ça fait très mal, ça fait très très mal, madame. Une douleur indestructible que j'ai.
La famille de Joyce Echaquan réclame 2,7 millions de dollars à l'hôpital de Joliette et au personnel soignant. Campagne électorale, l'immigration encore et la fonderie Horn rattrape François Legault. Et le chef du Parti québécois répond à nos questions. Est-ce que vous êtes capable de sortir de vos gonds aussi?
Oui. Mon équipe...
Vous n'avez même pas l'air sûr. Ouais. Voici votre fil de la journée. Bonsoir. Oui, c'est un homme très émotif, hein, toujours évidemment en deuil de sa femme, Joyce Echaquan, qui s'est présentée devant la presse ce matin. Le père de 7 enfants poursuit le 6 de la Nodière et son personnel pour avoir négligé les soins de santé qui auraient dû être donnés à la femme de 37 ans. Ses proches réclament donc 2,7 millions de dollars. Anaïs, donc, cette poursuite avait été annoncée il y a un an, là, mais les détails ont été rendus publics aujourd'hui.
Ouais, une poursuite intentée par une famille endeuillée. Et dans le document que j'ai entre les mains, bien, on apprend que la poursuite, elle est déposée pour tous les dommages qui ont été causés à la famille, notamment les enfants. On apprend qu'ils sont perturbés par la perte de leur mère depuis son décès, qu'ils vivent des difficultés scolaires. Certains d'entre eux ont de l'angoisse, des crises nocturnes. Et aujourd'hui, Carole Dubé a dit que du jour au lendemain, il s'est retrouvé père et mère de 7 enfants. Et ce qui explique le montant élevé de cette poursuite au civil, bien, c'est le nombre de demandeurs. Il y a le conjoint de Joyce Echaquan, Carole Dubé, leurs 7 enfants, la mère et le défunt père de Joyce Echaquan et sa belle-sœur. Et là, on peut le voir au tableau comment est ventilée cette poursuite là, qui a été déposée ce matin au palais de justice de Joliette. Plus de 2 millions pour le 6 et la médecin en chef. 500 000 $ en dommages punitifs au 6 de la Naudière et 20 000 en dommages punitifs à l'infirmière qui était là sur place et qu'on a entendu dans des enregistrements. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est assez exceptionnel de poursuivre un organisme comme le 6, comme nous explique l'avocat de la famille.
C'est exceptionnel de réclamer des dommages punitifs contre une institution. Dans ce contexte-là, la raison pour laquelle on demande des dommages punitifs au 6 de la Naudière, c'est parce qu'on allait que le 6 de la Naudière savait ou devait savoir qu'en ne faisant rien, la situation fondamentalement attentatoire aux droits fondamentaux des gens de la communauté de Manawan allait continuer.
Et Anaïs, la famille prévoit également d'autres actions?
C'est pas la fin. La poursuite va être déposée au Collège des médecins du Québec et à l'Ordre des infirmières et infirmiers parce que ça va servir de plainte auprès des deux institutions. L'avocat de la famille nous explique qu'ils veulent que ces deux institutions revoient les agissements, la conduite de tous les professionnels de la santé. Et pour les membres de la communauté Atikamekw, on est déçus de l'absence d'implication politique, surtout dans un contexte électoral. Et le grand chef Atikamekw Constant Awashish, aujourd'hui, a dit qu'il faut reconnaître le racisme systémique. On l'écoute.
On fait ça parce qu'on veut rendre justice à Joyce, évidemment, mais je pense qu'on veut rendre justice également à tous les Autochtones. On veut pouvoir s'assurer, là, moi, je veux pouvoir vieillir en sachant que nos enfants ou nos petits-enfants puissent vivre pleinement leur identité, qu'ils puissent être confortables dans qui ils sont et qu'ils puissent recevoir des services publics là, tout en étant...
Le 6 de la Naudière n'a pas voulu commenter cette poursuite. Donc, on continue à suivre le dossier pour vous.
Merci, Anaïs. Campagne électorale maintenant, 33e jour. François Legault qui tente tant bien que mal hein, depuis hier de se sortir des déclarations au sujet de l'immigration. Et là, ce matin, il était de passage à Rouen. Et disons qu'il s'est emporté contre un animateur radio. Étienne, je ne sais pas ce qu'il y avait dans l'air à Rouen, là, mais le chef de la CAQ a semblé irrité.
On sait un peu ce qu'il y a dans l'air à Rouen, dans ce coin-là. Mais ouais, irrité, on sait que ce n'est pas une fin de campagne facile pour François Legault et qui est pas mal critiqué sur sa position de la fonderie Horn. Puis là, ce matin, bien, il était en entrevue radio à Radio-Canada, station locale là-bas. On lui a posé des questions assez difficiles sur les décisions que la CAQ a prises dans ce dossier-là. Vous voyez un peu sa réaction assez intransigeante aux questions de l'animateur.
Vous parlez de l'arsenic, on a parlé du 15 nanogrammes en parlant de seuil où c'est peut-être davantage sécuritaire, là, je vais peser mes mots, mais il y a aussi de l'acide sulfurique, de l'argent, de l'arsenic, du cadmium, du chrome, du cobalt, vous la connaissez, la liste?
Bien là encore, c'est pas exact ce que vous venez de dire. Vous venez de dire davantage acceptable. C'est pas ce que la santé publique dit. La santé publique dit acceptable.
Je reprenais vos mots sur le 15 nanogrammes.
Non, non. La santé publique dit pas davantage acceptable.
Parce qu'il y a des études...
Non, mais c'est parce que là, M. Chabot, vous dites des choses qui sont fausses.
Non, mais
Après ça, François Legault est allé voir des représentants des élus de Rouyn-Noranda. Lui ont dit qu'ils ne sont pas tout à fait contents de la position de la CAQ jusqu'à maintenant, que les seuils sont encore trop élevés. Il a dit qu'en sortant de la réunion, qu'il était prêt à avoir un référendum des citoyens de la région sur la question, mais qu'il va falloir décider vite si on ferme ou pas l'usine. Il a même évoqué ce scénario-là.
Oui, on sent quand même pas mal de tension. Pendant ce temps-là, il y a l'autre sujet polémique, l'immigration. Jean Boulay refuse, là, lui, de démissionner.
Oui, alors que Éric Duhaime, chef du Parti conservateur, dit que c'est nécessaire. Dominique Anglade dit qu'il devrait au moins quitter ses fonctions de ministre du Travail et de l'Immigration, parce que même si on est en élection, il garde en ce moment ses fonctions-là tant qu'il n'y a pas un nouveau gouvernement. Jean Boulay, lui, a dit qu'il ne démissionnera pas. Il s'est excusé. François Legault appuie cette décision-là. Mais les oppositions trouvent que le ton de cette fin de campagne n'est pas très sain et vraiment dénonce l'attitude de la CAQ.
Ce que vous avez entendu aujourd'hui, c'est François Legault. C'est François Legault qui n'aime pas être critiqué, François Legault qui n'aime pas être contesté, François Legault qui n'écoute pas la science, François Legault qui divise.
À un moment donné, les excuses, ça s'épuise. Moi, je pense que François Legault a fait mal à des gens. Moi, je suis pas le porte-parole de ces gens-là. Mais mon humble avis, là, c'est que le mal est fait.
Bon, ce qu'on surveille également, c'est ce convoi anti-CAQ qui va se débuter le samedi. Ça sera à l'Assomption, dans cette petite municipalité-là, où il y a les bureaux de François Legault.
Il
devrait avoir pas mal de monde. Puis là, Éric Duhaime, chef du Parti conservateur, a fait un appel au calme aujourd'hui. Il dit que c'est pas nécessairement son parti qui participe à l'organisation de cette manifestation-là, mais dit donc qu'il faut pas manifester de façon écervelée, je le cite. Donc, on va surveiller ça, évidemment, samedi. Manifestation qui se nomme Convoi anti-CAQ et qui est inspirée, semble-t-il, un peu même du mouvement d'Ottawa.
On comprend. Merci, Étienne.
Merci beaucoup. Merci. À bientôt.
Et parmi les autres faits saillants de la journée, la distorsion du mode de scrutin pourrait priver le Parti conservateur d'être élu à l'Assemblée nationale. Même Paul Saint-Pierre Plamondon est venu à la défense d'Éric Duhaime. Selon le chef péquiste, chaque parti qui représente un segment de la population devrait obtenir une voix à l'Assemblée nationale.
Je pense que si un parti obtient 15 % dans les sondages, il mérite d'être entendu à l'Assemblée nationale, il mérite un espace.
D'ailleurs, un nouveau sondage Segment annonce que le parti d'Éric Duhaime est en avance dans Beauce-Nord et au coude à coude avec la CAQ dans Beauce-Sud. Pour sa part, Québec solidaire promet un investissement supplémentaire en éducation. Gabriel Nadeau-Dubois souhaite ajouter 1,6 milliard de dollars pour la rénovation des écoles.
C'est pour ça qu'un gouvernement solidaire va ajouter 1,6 milliard de dollars dans le prochain mandat pour réparer les écoles du Québec. On en a tellement besoin.
Bon, cette course achève, on le sait, mais elle n'est pas terminée. Et pour notre dernière longue entrevue avec un chef de parti, Paul Saint-Pierre Plamondon nous a donné rendez-vous dans un café qui a toute une signification pour lui et sa famille.
Paul Saint-Pierre Plamondon, bonjour.
Bonjour.
On est à quelques jours du vote. Comment allez-vous?
Ça va très bien. Je suis porté par l'énergie que toutes sortes de gens, comme tantôt, avant d'en rentrer dans le restaurant, là, les gens lâchaient pas, continuaient.
J'ai remarqué tantôt, quelqu'un vous a chuchoté quelque chose à l'oreille. Qu'est-ce qu'il vous a dit?
Il m'a fait une prédiction sur ce qui attend le Parti québécois, qui était très, très positive, mais tellement positive que je pense que je ne le dirai pas.
Nous, on est dans un café qui a une connotation très particulière pour vous aujourd'hui.
C'est le resto de quartier, mais le resto aussi pour les dates entre mon épouse et moi. Mais c'est aussi le resto où on se trouvait alors qu'on était en course à la chefferie. Le soir où Alexandra m'a dit « Paul, tu finis ton assiette maintenant, puis on s'en va à l'hôpital. » Mon fils Maurice est né dans l'heure qui a suivi.
On a vu pendant la campagne, pendant les débats, vous avez un style un peu plus posé, voire affable.
C'est doux.
Doux. Hein? Au lac, on dirait que vous avez l'air bien d'adon. Hein? Est-ce que vous êtes capable de sortir de vos gonds aussi?
Oui. Mon équipe...
Vous n'avez même pas l'air sûr. Ouais.
Non, non, mais mon équipe, mon épouse vous dirait sans l'ombre d'un doute. Ma façon de voir la politique dans un environnement où les gens votent de moins en moins, on le voit partout dans le monde, les démocraties vont pas bien. Je me dis, on va s'adresser à l'intelligence des gens de manière constructive en parlant d'avenir. C'est comme ça qu'on devrait faire de la politique.
On va se le dire, vous étiez clairement le chef le moins connu. On souhaiterait en savoir davantage sur vous. Votre fibre souverainiste, elle a pris racine où?
J'ai voté oui en 95 à l'âge de 18 ans.
Quel était votre premier vote?
Premier vote. Et ça, en passant, ça veut dire que tous ceux qui ont moins de 45 ans n'ont jamais voté sur cette question-là au Québec. Ça fait bien du monde. Moi, j'avais 18 ans, puis mes parents étaient les deux fédéralistes et donc allaient voter non. Et je leur ai dit que j'allais voter oui.
Mais pourquoi?
Je trouvais ça plus intéressant d'avoir un projet de société constructif, quelque chose à bâtir.
Je vous ramène à 95. On parlait beaucoup de politique à cause du référendum. Est-ce que les jeunes s'intéressent encore à la souveraineté?
Oui, s'intéressent à la politique. Par exemple, la question environnementale, qui est beaucoup plus présente aujourd'hui, évidemment, qu'à l'époque, bien, demeure qu'on envoie des milliards de dollars de nos impôts dans les sables bitumineux de l'Alberta.
Comment vous le définissez, ce parti-là, aujourd'hui, en 2022, qui est peut-être pas le même que parents, nos grands-parents ont connu?
Dans un livre qui date, un livre de notre histoire qui date d'au moins depuis les Patriotes, de génération en génération, il y a une quête pour qu'on soit un peuple normal qui décide par lui-même. Puis le prochain chapitre, il est à écrire, puis ça, c'est le crayon. C'est la prochaine génération qui va écrire ce prochain chapitre-là.
Qu'est-ce qui nuit, selon vous, actuellement à la popularité du Parti québécois?
Rien, on monte. On est le seul parti qui monte.
Bien, le parti monte ou vous montez?
En tout cas, les intentions de vote pour le parti montent à chaque fois, puis ils continuent, pendant qu'on se parle en ce moment, ils continuent de monter. Et c'est souvent dans la dernière semaine que ces dynamiques-là s'accélèrent, particulièrement dans un contexte où je pense que sérieusement, la question se pose, est-ce qu'on va donner la quasi-totalité des pouvoirs, un pouvoir absolu à François Legault, ou est-ce qu'on veut des oppositions fortes?
Si, par exemple, on arrive à la situation où le nombre de sièges de Québec solidaire plus le nombre de sièges du Parti québécois ensemble pourraient former l'opposition officielle, est-ce qu'il pourrait y avoir des discussions?
J'en doute.
Diviser les forces souverainistes, c'est pas en même temps les affaiblir?
Plutôt que tenter de forcer les choses en deux partis qui sont fondamentalement en désaccord sur certains aspects, réformons le mode de scrutin pour laisser une place légitime à tout le monde.
Quel est le remède péquiste pour le système de santé actuel qui est quand même relativement mal en point?
La première ligne dans les CLSC, en faisant appel pas seulement aux médecins, mais à tous les professionnels de la santé.
Mais ça marche pas, c'est les CLSC. On dirait que ça fait des années qu'on veut faire...
C'est parce qu'on coupe, puis ensuite on dit ça marche pas. Mais c'est une façon, en fait, d'introduire le privé, puis de... Moi, je crois vraiment qu'il y a des choses fondamentales dans la société qui devraient être accessibles à tout le monde.
Est-ce qu'avec un gouvernement péquiste, chaque Québécois aurait accès à un médecin de famille?
C'est la mauvaise façon de voir les choses. Je sais que les libéraux disent ça.
C'est ce que les Québécois... Les Québécois veulent un médecin de famille.
La CAQ avait promis ça. Ça n'a pas assez proche d'arriver. Ce qu'il faut dire plutôt, c'est quand on a un problème de santé, on garantit qu'il y a un professionnel qui nous attend rapidement pour trouver une solution. Mais lequel des professionnels? Pas nécessairement un médecin. Parce que c'est pas toujours la meilleure personne pour intervenir dans les circonstances.
Parlons d'économie. Vous êtes le seul parti qui propose de ramener le seuil d'immigration à 35 000. Le milieu économique, disons, a besoin de main-d'œuvre. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'en ramenant ce seuil-là à 35 000, que l'économie s'effondre alors qu'on a besoin de gens en ce moment au Québec pour travailler?
Les économistes de référence disent très clairement qu'augmenter les seuils ne comblera pas la pénurie de main-d'œuvre. Les observateurs du milieu du logement également disent très clairement que il y a des limites en situation de crise du logement au nombre de personnes qu'on peut accueillir parce qu'un logement, ça ne se construit pas du jour au lendemain. Donc, c'est une discussion qu'on doit avoir sur un chiffre qui permet une pérennité du français, permet une régionalisation réussie également de l'immigration et permet aussi, dans les circonstances de logement, mais aussi de services qui sont limités, là, de trouver quelque chose de gagnant.
Depuis le temps qu'on parle d'indépendance, qu'on ne soit pas capable de faire le budget de l'an 1, est-ce que c'est parce que vous avez peur de montrer les failles économiques du projet?
Oh non, en fait, notre budget de l'an 1, il est prêt depuis 3 mois et il démontre que, évidemment, puis là, même François Legault, là, qui se targue d'être le plus contre l'indépendance, là, même lui a fini par avouer, comme Jean Charest et Philippe Couillard, qu'un Québec indépendant est parfaitement viable sur le plan économique. Par contre, ce qui est arrivé, c'est que les chiffres, en raison de l'inflation, ont tellement changé. Les gouvernements ont tellement engrangé de sous, de revenus qu'on n'avait pas vu venir, que ce qu'on aurait déposé aurait été critiqué.
Je vous dis souvent que si on était un pays, on n'aurait pas à quémander des milliards de dollars d'Ottawa, mais en même temps, on les aurait pas, ces milliards de dollars d'Ottawa. Est-ce qu'il serait pas temps de montrer l'autonomie?
Je vous arrête tout de suite, là. Il faut que vous réalisiez que les dollars d'Ottawa, c'est les vôtres. Ottawa a de l'argent juste parce que vous versez vos impôts à Ottawa. C'est pas l'argent d'Ottawa, c'est notre argent.
On va y aller avec des petites questions en rafale, des réponses très courtes.
Si vous pouviez ressusciter un de nos grands politiciens le temps d'un café comme ça, est-ce que ce serait, je vous donne un choix, par exemple, Robert Bourassa, Jean Lesage ou Pierre-Éliott Trudeau?
Ah non, mais donnez-moi René Lévesque, s'il vous plaît.
Non, je vous le donne, je vous l'offre pas parce que c'est ça que vous alliez le proposer.
Je parlerai alors... à Jean Lesage.
Ouais.
Si le projet dépendantiste est si peu populaire au moment où l'on se parle, est-ce que c'est parce qu'il est mal vendu, mal compris ou périmé?
Je pense que si on peut en parler de manière positive comme d'un projet de société qui est non seulement intéressant, mais nécessaire, parce que le Canada refuse tout ce qu'on quémande, mais nous donne aussi un avenir linguistique et culturel très sombre.
Ça serait quoi la manchette rêvée que vous aimeriez lire à votre sujet?
La manchette rêvée que j'aimerais lire à mon sujet. PSPP inspire un meilleur avenir pour le Québec.
Ma dernière question. On a appris que vous étiez un fan de karaoké. Le 3 octobre au soir, vous allez chanter quoi?
Jean du pays.
Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Et bonne fin de campagne.
Bonne fin de campagne. Restez là dans un instant. Bilan de campagne de notre collaborateur Yves Boisvert. À tout de suite. C'est l'heure du bilan de campagne avec notre collaborateur Yves Boisvert. Bonsoir, Yves.
Bonsoir, Marie-Christine.
On vient de voir Paul Saint-Pierre, Plamondon. Une chose est certaine, la campagne va avoir permis de le connaître davantage, finalement.
Oui, parce qu'il n'y avait pas une grande notoriété. Il est devenu chef un peu pendant la pandémie, au pire moment pour être dans l'opposition. Hein? Parce qu'au début, on se rappelle tous que c'est comme si c'était un gouvernement de coalition, parce que tout le monde devait participer à l'effort de guerre, entre guillemets. C'est comme ça qu'on appelait ça. C'était une guerre au virus. Et ensuite, bien, l'espace pour les parlementaires était très restreint. Lui, il n'a pas de siège en plus. Alors, donc, ça n'a pas été facile pour lui de se faire valoir avant le début de la campagne. C'était celui qui avait le moins de notoriété.
Là, on sent qu'il surfe sur une vague.
Oui.
C'est une remontée relative, quand même, dans les sondages.
C'est une remontée relative. Si les chiffres reflète la réalité. C'est une remontée relative, mais importante, parce qu'il était à 9 % à peu près. Là, il est autour des fois 13, des fois 15, ça dépend des sondages.
Ça lui prendrait deux semaines de plus pour bien faire.
Ben, oui, mais il ne faut pas oublier une chose. C'est que c'est beaucoup plus facile d'être le dernier de la course que le premier. Parce que quand vous êtes François Legault, vous en avez quatre contre vous, et lui, personne ne s'en occupe, y compris les journalistes. Il n'y a pas eu une campagne difficile. Il n'a pas fait face à des questions robustes parce que, bon, ben.
On veut le connaître.
C'est le Parti québécois est dans cet état-là. Alors, c'est pas vers lui que les questions les plus pointues ont été dirigées. Et les autres chefs, ils s'en occupent même pas. Québec solidaire s'occupe pas du PQ. Les libéraux s'occupent pas du PQ.
Ouais.
Et donc, ça l'a aidé aussi. Donc, il y a une certaine bonne volonté qui l'entourait.
Oui. Parlant des autres qui ont un petit peu plus de difficultés, peut-être, François Legault, j'aimerais ça t'entendre sur sa montée de lait.
Oui, il paraît qu'il ne faut pas utiliser cette expression-là, mais si ça vient
moi?
Oui, ça vient de toi, je sais. Mais c'est que on se rend compte, et là, on va réutiliser le mot lait encore, il est soupe au lait, François Legault.
Bon, le sentir irrité, en tout cas, dans l'extrait.
C'est pas la première fois. Il est agacé. Il est tanné de se faire picosser sur les dossiers qu'on connaît.
Il devrait être fatigué aussi. Tu sais, à un moment donné, le filtre tombe un peu plus quand on est fatigué.
Mais il y en a, disons, qui sont plus rebondissants. Lui, et là, il trouve ça. Puis là, on sait comment ça fonctionne dans une campagne. Le chef, il arrive, il a un message. Il veut parler de ci, il veut parler... Hier, j'étais à la Chambre de commerce pour l'entendre. Il disait, j'en ai parlé d'éducation, mais j'arrivais à la conférence de presse après, puis les journalistes, troisième lien, immigration, troisième lien, immigration. Mais non, mais c'est... Et donc, lui, c'est un peu ce François Legault exaspéré qu'on voit sur les derniers jours. En même temps, c'est un peu de sa faute. Parce que l'immigration, si on en a autant parlé, c'est pas pour rien. C'est parce que lui-même s'est mis les pieds dans les plats. Et là, on peut reparler encore de Jean Boulay hier, qui est une... Vraiment, là, c'est quelque chose de catastrophique pour lui, pour le Québec, pour les immigrants et même pour la réputation du Québec, Marie-Christine. Parce que ça, là, ça fait le tour du Canada et ça va circuler. Le ministre de l'Éducation... de l'Immigration, pardon, celui qui est en charge du dossier...
Il dit des faussetés.
..dit en public que les immigrants, ils travaillent pas, puis ils parlent pas français. Ce qui est faux. C'est complètement faux. Alors, et François Legault, évidemment, n'était pas content de ça. Et c'est
mais il est allé rajouter avec une autre déclaration sur le fait que c'était suicidaire d'avoir davantage d'immigrants.
Un peu suicidaire. Si on en a trop, bon, on peut le mettre en contexte. Disons que ça, c'est maladroit, mais ça montre une espèce de vision de l'immigration comme quelque chose de fondamentalement problématique, dangereux et duquel il faut se méfier. Mais en tout cas, donc, ça finit sur cette note-là.
En tout cas, pour l'instant, c'est encore une lutte à quatre pour l'opposition. Si on regarde un petit peu le tableau actuel de la situation, il n'y a pas personne qui peut dire en ce moment, clairement, officiellement, qui sera l'opposition.
Mais à cause de la façon dont les votes sont répartis, ce n'est pas vraiment une lutte à quatre. Ça ne peut pas vraiment être le Parti conservateur. C'est même pas sûr qu'ils aient un seul comté, même si peut-être ils vont avoir plus de votes au total que les autres. Donc, c'est probablement entre Québec solidaire et le Parti libéral, parce que le Parti libéral a quand même certains sièges acquis et Québec solidaire aussi. Mais je dis ça et je miserai pas trop d'argent là-dessus. Alors, ça va être ça qui va être à surveiller. L'ampleur de la victoire de la CAQ, si c'est vraiment ça, et qui va être le numéro 2.
Tu seras là avec nous le 3 octobre au soir.
Bien sûr.
On aura de longues heures pour discuter
avec
de
grand
tout
plaisir.
Ça. Yves Boisvert, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Bye-bye. Maintenant, la santé publique a fait le point aujourd'hui sur la COVID et l'influenza. Les Québécois vont pouvoir recevoir deux vaccins en même temps à compter de la semaine prochaine. Fanny, donc, le début de la campagne contre l'influenza a été devancé.
À partir du 5 octobre prochain, ce sera possible de se rendre sur la plateforme de Clé Santé et de prendre en même temps son rendez-vous pour la COVID et son rendez-vous pour l'influenza. Ça va fonctionner comme les autres années, Marie-Christine. Il y a certaines personnes qui pourront avoir accès gratuitement à ce vaccin contre la grippe saisonnière. On a rappelé aujourd'hui les gens qui étaient davantage à risque, ceux qui ont des maladies chroniques, les aînés, les bébés, les femmes enceintes aussi. Et on a voulu aussi rassurer la population des gens qui pourraient s'inquiéter de l'impact que ça a physiquement de recevoir deux vaccins simultanément.
Le 22 % dont vous parlez, ça, c'est pour l'ensemble de la population. Ce qui est vraiment important, ce sont les personnes qui sont plus à risque. Donc, les personnes plus âgées, on met 60 ans, là, mais des fois, il y en a qui sont plus jeunes, qui ont des conditions particulières d'immunosuppression ou d'autres maladies, et d'autres qui sont beaucoup plus âgées. Ces personnes-là, vraiment, ils tirent avantage de la vaccination et ils répondent. On voudrait qu'ils répondent encore plus, mais on n'est pas... Le chiffre du 22 % pour l'ensemble de la population, c'est un mauvais indicateur maintenant pour nous. Il faut vraiment cibler là, ceux qui en ont besoin.
Bon, Fanny, la transmission de la COVID est en hausse, mais le message de la santé publique reste le même. La clé, c'est la vaccination.
Là, on ne sentait pas vraiment d'inquiétude aujourd'hui dans le discours du directeur de la santé publique, mais vous allez le voir sur les chiffres concernant la vaccination en ce moment. Les chiffres ne sont pas nécessairement très élevés selon les tranches de la population. On dit qu'il n'y a que 22 % des Québécois qui sont allés chercher une dose au cours des 5 derniers mois. Il y a évidemment des gens qui ont eu la maladie au cours de l'été. Là, il réagit là-dessus, encore une fois, le docteur Boileau, avec un grain de sel, disons.
La vaccination, de donner les deux vaccins en même temps pour l'influenza et celui contre la COVID, il n'y a aucune interaction. On peut le recevoir. Puis d'ailleurs, c'est une bonne idée de les jumeler dans un même rendez-vous parce qu'évidemment, on suppose qu'il y aura plus d'adhésion de la part des personnes, surtout des personnes à risque de complications, à la fois pour l'influenza et à la COVID. Vous avez remarqué que c'est beaucoup les mêmes personnes, ceux qui ont des problèmes pulmonaires chroniques, ceux qui sont plus âgés. Dans les deux cas, l'influenza et la COVID peuvent avoir des conséquences. Donc, d'avoir le même vaccin, en fait, d'avoir les vaccins lors du même rendez-vous, c'est en fait une excellente idée.
Alors, ça sera possible d'aller chercher le vaccin à compter du 5 octobre prochain. Et puis, les gens qui auraient pris déjà leur rendez-vous et qui se questionnent de ce qu'ils devront faire, bien, sachez qu'en arrivant sur place, si vous avez votre rendez-vous pour la COVID, vous pourrez demander à avoir votre dose aussi pour la grippe saisonnière.
Merci pour ces précisions, Fanny. Maintenant, l'ouragan Yann, maintenant rendu une tempête, poursuit sa trajectoire vers la Caroline du Nord. Et pendant ce temps, bien, en Floride, c'est la consternation. On vient d'avoir un bilan le provisoire. Il y a au moins 15 personnes qui ont péri, mais il pourrait y avoir beaucoup plus de victimes, malheureusement. Sabrina, une chose est sûre, les dégâts sont considérables.
Effectivement. Le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, a déclaré n'avoir jamais vu des inondations aussi
importantes. Il y a notamment la ville de Fort Myers qui a été fortement touchée par les forts vents de l'ouragan. Cape Coral hein, aussi qui a été complètement dévasté. Il y a des maisons qui ont été détruites et inondées, des bateaux qui ont été submergés ou ont carrément échoué. Et dans le comté de Lee, il y a 1000 patients dans un hôpital qui ont dû être transférés en raison d'une coupure d'eau. Pour ce qui est également des pannes de courant, eh bien, près de 24 heures après le passage de Yann, il y a toujours plus de 2,6 millions de foyers en Floride qui sont privés d'électricité. Et d'ailleurs, un petit peu plus tôt aujourd'hui, il y a le président américain, hein, Joe Biden, qui a visité les bureaux de l'Agence fédérale qui lutte contre les catastrophes naturelles. Il a déclaré l'état de catastrophe naturelle majeure, ce qui permet en fait de débloquer des fonds additionnels pour les secteurs touchés. Tu l'as dit d'entrée de jeu, pour ce qui est du bilan des décès, on vient d'en avoir un tout récemment, donc on parle d'au moins une quinzaine de décès, mais ça pourrait être encore pire. Et justement là-dessus, on va l'écouter le président américain, suivi d'une sinistrée qui a tout perdu lors de l'ouragan.
This could be the deadliest hurricane in Florida's history. The numbers are still unclear, but we're hearing early reports of what may be substantial loss of life.
And then it just smacked us really hard, and you know, we fled to my mom's, and that's all we could have did, but now we're homeless. This is my community. This is my home. It's not only for my pain, it's for everybody's pain. I'm terrified for everybody. It's not only all our trailers, it's half of Cape Coral, it's half of everywhere.
Il y a plusieurs Québécois qui se demandent également qu'est-ce qui va arriver de la résidence secondaire qui a été endommagée. Parce qu'ils ont assisté impuissants, en fait, à l'arrivée de l'ouragan Yann hier et au courant de la nuit. Et il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui se demandent qu'est-ce que je vais faire avec ma résidence secondaire. Est-ce qu'elle a été endommagée? Et justement, bien, il y a des gens même qui cherchent sur Internet des personnes qui peuvent aller voir si leur résidence a été endommagée. Et pour celles qui ont subi des dommages, eh bien, il va falloir qu'ils contacte leur assurance. Et justement, j'ai parlé avec un avocat qui est spécifique. Ça va être important de prendre des photos et tenter vraiment de régler les dégâts qui sont en cours. On peut aller l'écouter.
Si on a un trou dans le toit, si c'est à cause de l'ouragan et on laisse le trou non couvert et pendant les prochains jours, il y a de l'eau qui tombe, et ça abîme le mobilier, ça ne sera pas couvert parce que l'assurance dira ben, vous n'avez pas fait ce que vous deviez faire, c'est-à-dire de votre responsabilité de s'assurer qu'il n'y ait pas plus de dommages à cause de cette tempête.
Et juste en terminant, on va revenir au Canada. La tempête, l'ouragan Fiona qui avait touché les Maritimes, les îles de la Madeleine, ben justement, Premier ministre Justin Trudeau était du côté des îles de la Madeleine et il a réitéré aujourd'hui l'appui du gouvernement fédéral pour aider les sinistrés.
Merci, Sabrina.
Ça fait plaisir.
Et justement, c'est l'heure de retrouver notre animatrice des bulletins locaux, Lisa Marie. On va parler de Fiona parce que ça a détourné finalement 4 bateaux de croisière vers la baie.
Oui, la tempête qui finalement aura eu des impacts assez importants au Saguenay-Lac-Saint-Jean. 4 bateaux de croisière qui ont modifié leur trajectoire, ce qui fait en sorte qu'il y a un peu plus de 26 000 croisiéristes qui vont finalement passer par la BDA cette semaine. Promotion Saguenay qui souligne d'ailleurs la réaction incroyable de l'ensemble des joueurs de l'industrie touristique du lac Saint-Jean qui, comme on le dit, se sont virés sur un 10 cents, là, se sont impliqués, ils ont collaboré pour s'assurer de pouvoir accueillir tous les croisiéristes détournés. Et au final, bien, c'est quand même une belle surprise là, pour les commerçants du secteur de voir autant de touristes débarquer chez eux. On peut les écouter.
Avant la pandémie, c'était très bien, mais on ne pensait pas revoir ça, là, parce qu'on a quand même beaucoup de bateaux qui n'étaient pas attendus, qui viennent ici, puis ils sont heureux de nous voir en région, puis on a tous des produits locaux.
Une très, très grosse semaine, beaucoup de bateaux non prévus. C'est un beau défi parce que tout part assez bien.
C'est un peu inattendu et ça fait quand même beaucoup de monde à voir.
On n'a comme pas beaucoup de temps de libre. Mais c'est intense. J'avoue que c'est assez intense cette année.
Ouais, tout mais un défi, mieux. Mais un beau cadeau, évidemment, oui. Quand on sait à quel point les 2 dernières saisons de croisière ont été perturbées par la COVID.
Ouais, t'as raison de le préciser. Merci beaucoup, Lisa Marie.
Bonne soirée.
À demain. On est à 3 jours de la fin de la campagne et les candidats s'activent, particulièrement dans les circonscriptions où la lutte est encore serrée. Emmanuel est avec moi parce qu'Emmanuel, tu es allé faire un tour dans la circonscription de Viau où Québec solidaire le talonne les libéraux.
Oui, il y avait plusieurs bonnes raisons d'aller dans Viau hier. Il y a Québec solidaire justement qui essaie de s'établir comme première opposition. Les libéraux veulent prouver qu'ils ne sont pas sur le déclin. La CAQ veut percer dans l'île. mais les circonstances ont voulu que je sois allé le même jour où le premier ministre affirmait qu'il serait suicidaire pour le Québec de recevoir plus de 50 000 immigrants par année, le même jour où on apprenait que le ministre de l'Immigration affirmait, Jean Boulet, affirmait faussement que plus des 80 % des immigrants ne parlent pas français, ne veulent pas adhérer aux valeurs. Puis ça, dans une circonscription comme Viau, où plus de la moitié de la population a déclaré être issue de l'immigration, bien, ça fait jaser. Vous allez l'écouter.
Les gens ne mesurent pas les conséquences de leurs paroles. Et quand François Legault a associé l'immigration à la violence, a abordé les questions des enjeux de cohésion sociale, moi, ma fille m'a demandé, mais qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Est-ce que moi, papa, est-ce que je suis une menace, moi?
Je suis très fière de mes origines camerounaises, mais je suis profondément également québécoise. Pour moi, ces propos-là sont des propos qui divisent, c'est des propos qui peuvent blesser. La circonscription de Viau, c'est une circonscription riche de sa diversité, donc beaucoup de Québécois d'origines diverses, communautés maghrébines, communauté latino-américaine et également haïtienne. Chaque Québécois, Québécoise de toute origine contribue au développement économique du Québec, à la culture.
En tant qu'immigrant, je veux participer au changement de ce pays pour un meilleur pays. Lorsque j'ai fait du porte-à-porte, j'étais dans un HLM qui est assez important sur le boulevard Saint-Michel. Une dame d'un certain âge m'a ouvert la porte. Écoutez, la seule chose qu'elle a fait, c'est entrer, M. Tambel. Elle m'a montré le sol, c'était dans un état délabré. Elle a ouvert le frigidaire, il n'y avait presque rien. Elle m'a dit, monsieur, avec ma petite retraite, quand j'ai fini de payer le loyer, il me reste presque rien. Nous avons besoin d'une bonne économie. Il faut des gens qui pensent plus capital, qui pensent plus entrepreneuriat.
On est des winners.
Bien, on a fait beaucoup de porte-à-porte, surtout pour les signatures au début. Le quartier, le Viau est une circonscription un peu plus défavorisée comparée au reste du Québec. Puis c'est vraiment le pouvoir d'achat, c'est vraiment quelque chose qui touche vraiment les gens d'ici.
Je suis le député sortant de la circonscription. Je suis candidat avec le Parti libéral.
Un quartier qui est en pleine revitalisation au niveau économique, au niveau social.
Bonjour, bonjour. Quand je parle aux gens, l'ingé Cursat, il y a la crise du logement, on en parle beaucoup. La sécurité, on en parle aussi. Il y a aussi l'éducation, la réussite éducative. Notre objectif, c'est de rattraper la moyenne montréalaise du taux de diplomation.
Vous pensez aller voter aux élections le 3 octobre?
C'est toujours fait.
La question de Lyon, c'est vraiment de donner un souffle à nos familles. C'était important d'investir davantage dans le logement social, mais également s'assurer qu'on a un cadre qui permette d'éviter les hausses abusives de loyers. C'est important, par exemple, pour Viau. Il y a depuis les dernières semaines, bien sûr, une réception très intéressante par rapport à nos idées. Puis on voit que nos indécis sont de plus en plus intéressés et nous disent concrètement qu'ils vont voter pour Québec solidaire.
Je veux dire un petit bonjour, merci beaucoup d'être là. Il y a un peu plus de 40 nationalités qui vivent côte à côte ensemble. La langue commune publique ici, c'est le français. Vous n'allez pas pouvoir entrer dans aucun commerce ici sans pouvoir vous faire servir en français. Mais cependant, ce n'est pas à moi de dire aux gens quelle langue parler à la maison. Ça leur appartient.
On revient ce soir sur l'histoire d'Amélie Champagne. Vous savez, on en parlait hier, là, cette jeune femme atteinte de la maladie de Lyme qui s'est malheureusement enlevée la vie. Cette histoire est aussi triste que choquante. Et dans une lettre ouverte ce matin, la présidente de l'Ordre des psychologues du Québec affirme que les mesures et les investissements en santé mentale sont nettement insuffisants. Notre collaboratrice Geneviève Peterson s'est également intéressée à ce dossier. Bonsoir, Geneviève.
Bonsoir, Marie-Christine.
Tu as écrit une lettre, d'ailleurs, très poignante, un article sur Nouveau.ca, d'ailleurs, à ce sujet. Mais on se demande tous comment le système a pu échapper cette jeune femme-là.
Mais c'est la question qui se pose, effectivement, parce qu'il y a tellement de choses illogiques quand tu lis l'histoire de cette jeune fille-là, une histoire de code postal. Elle aurait été refusée parce qu'elle n'était pas dans le bon secteur. C'est une espèce de série de cafouillages. Tu sais, il y avait des drapeaux rouges, comme on dit, des signaux d'alarme, des lumières qui clignotaient. Et pourtant, elle n'a pas été prise en charge. Et ce qui est le plus crève-cœur dans cette histoire-là, c'est que son père avait eu un contact avec un psychiatre qui avait accepté de la prendre le lundi matin. Et malheureusement, on connaît la suite.
C'est épouvantable et je pense qu'on connaît tous autour de nous des histoires qui peuvent ressembler, évidemment peut-être moins pires, mais sur les difficultés d'avoir accès à des psychiatres, des psychologues.
Bien, écoute, tu sais, c'est Patrick Lagacé qui a écrit là-dessus dans la presse, puis moi aussi c'est un sujet auquel je m'attarde depuis longtemps. J'ai écrit beaucoup dans le Journal de Montréal là-dessus. Et Patrick a fait une seconde chronique pour dire « C'est fou à quel point j'ai eu des messages. » Et c'est tellement vrai, parce que dès qu'on raconte des histoires comme ça, Marie-Christine, il y a des parents qui nous écrivent, malheureusement, là, à la pelle, à la pocheté, des histoires crève-cœur. Moi, j'ai eu une mère qui m'a écrit, qui me dit « Nous, on a hypothéqué notre maison. » Parce qu'à un moment donné, ma fille était tellement en détresse qu'il a fallu se tourner vers le privé. Et cette mère-là me dit « Elle ne l'a jamais su. » On ne lui a jamais dit parce qu'on ne voulait pas qu'elle se sente coupable. Donc, les parents qui sont prêts à faire n'importe quoi, et ça vient presque un travail à temps plein que de chercher des ressources pour son enfant. Les parents qui passent la journée au téléphone là, à appeler au CLSC dans les hôpitaux. Quand... Puis tu parlais de la lettre, là, 24 000 demandes par mois des experts qui nous ont dit que pendant la pandémie, l'autre pandémie, c'était une pandémie de santé mentale, on a des problèmes à gérer et c'est pas terminé, là. On est au pire.
Oui, puis ce qui est un peu tragique aussi, c'est que nous, les adultes, on a eu de la misère à sortir de cette pandémie-là, mais ça a eu un impact réel sur nos jeunes. Bien sûr. On le voit aujourd'hui, puis souvent, ils souffrent en silence.
Bien, ils souffrent en silence et quand ils se tournent vers les ressources, parce que moi, ce qui me choque comme citoyenne, là, puis ça, c'est vraiment la mère, la citoyenne qui parle, qui paie des impôts, là, c'est quand j'entends les gens au gouvernement faire des annonces d'investissement qui sont pas si mirobolants que ça, qui sont pas non plus des sommes qui sont récurrentes, et de dire « personne ne sera laissé de côté ». Allez dire ça aux parents d'Amélie Champagne. Allez dire ça aux parents qui ont perdu des proches par suicide suite à des troubles de santé mentale et qui ont été laissés de côté. Moi, je trouve ça, c'est insultant.
Puis aussi, tout le personnel soignant qui est témoin de tout ça aussi.
Ça aussi, ils nous écrivent parce qu'ils ne peuvent pas parler. Hein, ils ont devoir de réserve. Bien entendu, ils disent, écoutez, nous, on a l'impression de laisser tomber les gens. On se sent coupable. C'est pour ça qu'il y en a plein qui partent à la retraite prématurément ou encore au privé.
Oui, mais c'est ce qui est tragique. Bien, merci beaucoup. Je présume que plus on va en parler, plus évidemment il va y avoir cette prise
agir,
de conscience-là.
Il faut en parler, mais il faut faire quelque chose.
Ça prend un sérieux coup de barre. Geneviève Peterson, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.
Grand plaisir. Merci.
Et si les jeunes du secondaire pouvaient voter, à quoi ressemblerait leur vote? On est allé prendre le pouls dans une école. Un reportage au retour. Ils n'ont pas 18 ans, mais ils ont quand même voté cette semaine. Ce sont plus de 200 000 jeunes du primaire et du secondaire qui se sont inscrits au programme Électeurs en herbe mis sur pied par Élections Québec pour voter dans leurs écoles. Camille Lorrain-Desjardins est allée voir comment ça se passe à l'école secondaire Joseph-François Perrault à Montréal.
Je viens de voter. L'école a bien fait sa job pour l'organisation. Là. Je pense que c'est important qu'on rende honneur à nos droits de pensée, de parole qu'on a les jeunes, parce que même si on n'a pas 18 ans et qu'on est mineur, on a quand même une tête, on s'est réfléchi.
Ça me pratique pour quand je vais pouvoir voter pour vrai. Je trouve que c'est important de le faire parce que si tu t'occupes pas de la politique s'occupe de toi. Donc c'est important que tu utilises ton petit bout de démocratie pour aller voter.
Disons qu'on est une génération qui se plaint beaucoup, puis les plus vieux nous disent qu'on se plaint beaucoup. Alors, je pense que c'est important de voter pour essayer de défendre les sujets qui nous tiennent à cœur.
Quand t'es premier ministre du Québec, t'es pas premier ministre seulement des gens qui ont voté. Premier ministre de tout le monde. Donc, c'est important de savoir ce que les jeunes ont voté, pour qui ils ont voté.
Donc, c'est vous qui organisez un peu le programme Électeurs en herbe ici à l'école?
Oui, c'est moi qui l'initie. Depuis plusieurs années, je veux faire participer nos élèves à l'appareil démocratique, que ce soit élection municipale, provinciale, fédérale. Si ça éveille quelques esprits, tant mieux, parce que c'est la relève. Il faut monter sa carte d'identité avec photo. Ce sont toutes des petites choses qui font en sorte, OK, c'est ça que ça prend pour aller voter. Dès le lendemain, le 4 octobre, on va pouvoir comparer les votes des élèves avec le vote universel de monsieur et madame tout le monde.
Et d'habitude, quand vous faites ça, est-ce qu'il y a une grande disparité?
Oui. Oui, les jeunes sont tendance plus progressiste, je dirais.
Et est-ce que je peux te demander pour qui tu as voté?
Oui, bien, j'ai voté pour Québec solidaire.
Québec solidaire.
J'ai voté pour Québec solidaire.
Québec solidaire.
Québec solidaire.
Est-ce que tu as voté pour Québec solidaire?
Oui.
Pourquoi?
Parce que je trouve que c'est des valeurs qui me représentent puis que j'aime bien leur programme sur l'environnement.
Surtout pour les valeurs environnementales.
J'aime leur taxe orange, leur répartition de la richesse. J'aime leur politique environnementale, l'élection proportionnelle mixte.
Ouais.
C'est aussi un problème que les gens ne sont pas assez informés. Donc, c'est sûr que dans mon groupe d'amis, tout le monde est vraiment informé sur la politique. Tout le monde sait les engagements des partis, mais nous, c'est sûrement influencé par nos parents qui sont un peu bourgeois bohèmes, mais je suis un peu découragée quand je vois que ce n'est pas les mêmes opportunités que tout le monde a.
Moi, je connais beaucoup de gens autour de moi, justement, qui veulent voter, qui ont hâte de voter. Je pense qu'il y a aussi d'autres façons de s'impliquer qu'en allant voter. C'est important d'aller voter, mais tout ce qu'on a vu avec les grèves, les manifestations, ça a mobilisé énormément de jeunes.
Moi, je pense que les partis politiques ont une responsabilité, là, sauf qu'ils ne vont pas chercher beaucoup les jeunes.
Est-ce que vous allez aller voter le 3 octobre?
Évidemment, oui. Je prêche par l'exemple.
On reste dans le domaine de l'éducation. Il y a un professeur de maths dans Lotbinière, près de Québec, très populaire sur TikTok, qui s'est servi de cette plateforme pour faire passer un message.
Arrêtez de vous mettre de la pression. Puis mettre de la pression sur les jeunes, là, en ce moment, c'est pas une bonne idée. Fait que les parents aussi, on décompresse, on descend la pression, mais on supervise. On regarde pour que nos jeunes prennent pas des mauvais plis, qu'ils aient des bonnes attitudes d'habitude de vie, qu'ils soient reposés, puis qu'ils soient prêts pour les apprentissages. Puis si on travaille ensemble, bien, on va avoir une belle année scolaire.
Sylvain Duclos est avec nous ce soir. Bonsoir, M. Duclos.
Bonsoir.
Donc, ça fait 3 semaines seulement que l'année a commencé. Vous sentez déjà un stress chez les jeunes?
Oui, bien, en fait, c'est venu de collègues qui m'ont fait part là, de leurs inquiétudes, beaucoup de gens qui ont donné leur démission, qui sont partis en burn-out. Moi, je sens aussi là, sur le terrain là, les enseignants qui sont essoufflés. Souvent, on ressent ça plus avant les fêtes. Puis là,
ouais.
Ça arrive vraiment tôt cette année.
Oui, vous êtes prof au secondaire. Moi, j'ai 2 ados aussi au secondaire. Et ça me fait sourire quand vous demandez aux parents de se calmer un peu aussi. Là.
Bien, en tant que parent, là, moi, ma plus vieille est en 2e année, puis... On veut le meilleur, on veut que notre jeune donne le meilleur de lui-même, mais en même temps, il y en a déjà de la pression. On n'a pas besoin d'en rajouter plus. Ils veulent faire bien, les jeunes.
Ouais, vous avez reçu beaucoup d'appui, semble-t-il, à la suite de cette vidéo-là?
Bien, beaucoup de réactions, entre autres des enseignants qui me disent hey, « Merci vraiment, j'avais besoin aujourd'hui d'entendre ce message-là. » Puis aussi des parents qui disaient « Ah oui, peut-être que je pousse un peu mon jeune un peu trop. » C'est vrai que les dernières années ont été difficiles, puis... On pousse le bouchon un peu loin.
Mais j'allais vous le dire parce que les adultes, en fait, on essaie d'oublier du mieux qu'on peut la pandémie, mais on oublie aussi que les enfants ont été affectés peut-être un peu plus qu'on pense. Là.
Bien, les enfants ont été affectés, puis dans le domaine scolaire, on a travaillé sur les apprentissages vraiment prioritaires dans les dernières années. Puis on le voit, là, les jeunes n'arrivent pas nécessairement au même niveau. Puis cette année, bien, on a l'intention comme de partir vraiment en flèche puis de reprendre une année normale, mais ce ne sera pas une année normale. Il va falloir quand même... rattraper ce retard-là tranquillement, pas vite, ça se fera pas en 1 an.
Et je remarque que vous êtes un prof branché. Est-ce que vous sentez que vous êtes plus proche des jeunes en étant présent sur TikTok?
Bien, je ne sais pas si je suis plus proche des jeunes, mais en tout cas, j'ai des références que je n'avais pas avant depuis que je suis sur TikTok, là, depuis quelques mois. Puis les jeunes m'en parlent beaucoup aussi. Donc, le contact est vraiment différent, il est vraiment plus facile. Puis il faut aller les chercher, les jeunes, sur TikTok parce que c'est devenu leur moteur de recherche. Hein. Ça leur a remplacé YouTube pour nos jeunes.
Oui, parce que dans le fond, vous faites plein de capsules. Vous êtes prof de maths, là, je le disais en ouverture. Donc, vous faites des petites capsules pour expliquer certains problèmes, certaines équations, j'imagine.
Oui, des équations mathématiques. Oui. Je m'adresse aux parents, aux enseignants, puis aux jeunes aussi. Là, je fais un petit peu de tout et je m'amuse.
Je ne sais pas si la relation de Pythagore est plus sexy sur TikTok, mais moi, j'ai de la misère encore à la comprendre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, M. Duclos.
Ça a été un plaisir, merci.
Merci, bye-bye. Des centaines d'organismes communautaires et des milliers de personnes ont profité des élections pour manifester dans les rues de Montréal aujourd'hui. Ils dénoncent le manque d'engagement du gouvernement pour les plus démunis. Après des années à demander un meilleur financement, le milieu communautaire exige d'être dans les priorités du prochain gouvernement, surtout en cette période où l'on traverse une crise du logement et une hausse marquée de l'inflation.
C'est très, très préoccupant. C'est quand même préoccupant aussi que les partis ne s'engagent pas davantage dans la lutte contre la pauvreté, compte tenu du fait qu'on voit toutes les conséquences de cette pauvreté.
Avec Michel, évidemment, on suit encore la trajectoire de Yann.
Oui.
Hein?
Yann qui est redevenu un ouragan au cours des dernières heures parce que, tu sais, il est comme sorti des terres, allé un peu reprendre de la vigueur au-dessus de l'eau. Là, il se dirige vers la Géorgie et les Carolines. On va suivre ça ce soir. D'ailleurs, on va parler en direct à 22 h au fil avec un Québécois qui vit en Floride.
Au débatteur ce soir, oui. On va parler de campagne électorale oui. parce qu'à ce moment-ci, on ne sait même pas si les 5 chefs vont être élus. Là.
Il y a des chefs qui sont en danger dans leur circonscription. Et aujourd'hui, il y a le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui a dit en conférence de presse que le mode de scrutin au Québec, bien, ça pose problème pour plusieurs partis, plusieurs militants. Il dit, peu importe les partis, là, il est d'avis que tout le monde a droit à une voix à l'Assemblée nationale. On va parler un peu donc de mode de scrutin. On vous demande ce soir, seriez-vous pour ou contre que tous les 5 chefs obtiennent en fait automatiquement un siège à l'Assemblée nationale sans être élus? Vous pouvez déjà répondre à la question sur Nouveau.info. Puis on va en débattre ce soir avec Geneviève Peterson, avec Dominique Vallière, notre Victor Henriquez oui. et également notre débatteur invité, le professeur en droit émérite Daniel Turp, qui sera avec nous ce soir à 22h30.
On vous écoute. Bye. Merci, bye. Michel. Bonne soirée. Excellente soirée à notre antenne. On se retrouve demain, 17h.